France Inter, le 18-20.
Il est parti le 19 juillet, il a rangé son casoar, le couvre-chef militaire à plumes blanches et rouges, symbole de tous ceux qui sont passés par Saint-Cyr. Ranger le casoar pour ne plus le ressortir. Une démission avec fracas, une démission inédite et une passe d'armes tout aussi inédite avec le président de la République. Le chef, c'est moi, avait tranché alors Emmanuel Macron publiquement. Et quant à lui, le général d'armée Pierre Devilliers, apprenant que le budget 2017 était amputé de 850 millions d'euros, a dit son mécontentement. Et il l'a dit plutôt haut et plutôt fort. Aujourd'hui, il raconte cet épisode. Pas d'amertume, pas de rancœur, dit-il. Il raconte surtout son armée, les moyens, les opérations extérieures, sentinelles, le terrorisme, la vie militaire, les femmes, les hommes, le service, la défense européenne. Le livre s'appelle « Servir ». Il est édité chez Fayard. Et le général Devilliers est au téléphone, sonne avec vous jusqu'à 20h.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Et Michel, vous êtes le premier, vous êtes en Haute-Loire. Michel, bonsoir, soyez le bienvenu sur Inter. Le général Devilliers vous écoute.
Bonsoir madame, bonsoir mon général. J'approuve la position du général dans la mesure où, ayant été officier pendant 37 ans, j'ai toujours entendu la troupe récriminer contre les grands chefs qui ne décidaient rien, qui ne protestaient pas contre le manque de moyens. Donc là, je suis à fond, à 100%, pour l'attitude généreuse et lucide du général.
Eh bien écoutez Michel, votre message a été entendu, lucide et généreuse, général Devilliers. C'est aussi comme ça que vous l'avez senti lorsque vous êtes parti. Vous vous êtes dit, je dois être lucide et
merci,
généreux avec les troupes.
Merci Michel de cette appréciation. L'honneur et la poésie du devoir, j'ai essayé d'être à la hauteur des hommes et des femmes que j'ai eu l'honneur de commander pendant 3 ans et demi comme chef d'état-major des armées et que j'ai côtoyé pendant plus de 43 ans. Vous en avez fait partie. Nous avons de belles armées, mais j'ai estimé en mon âme et conscience que la différence d'appréciation que j'avais sur le plan des moyens qui allaient nous être accordés était telle que la confiance m'obligeait à démissionner. Je n'étais plus en état de remplir correctement ma mission. Mission, démission. Voilà, donc je crois que vous avez bien décrit ce que vous avez éprouvé, vous. Moi, j'ai pas voulu être un chef qui regarde les yeux dans les yeux les soldats en leur disant quelque chose qu'ils ne croient pas. La vraie loyauté, pour moi, c'est la vérité.
Mais en même temps, quand je vous lis, Monsieur Devilliers, vous dites quel gâchis d'en arriver là, alors que nous aurions pu faire autrement. S'il y a eu gâchis, c'est qu'il y a toujours une pointe de regret, non, finalement?
Oui, oui, c'est un gâchis. Nous aurions pu probablement faire autrement, parce que c'est toujours un gâchis quand un chef d'état-major des armées démissionne. C'est la première fois depuis la Ve République. Mmh. Et démissionne pour une affaire d'arbitrage budgétaire. Mais c'est ainsi, j'avais fixé un modèle d'armée cohérent par rapport à l'analyse des menaces, et je l'explique dans mon livre. Mmh. Et ce modèle cohérent, j'estime qu'il a été entaché par cet arbitrage.
On y viendra au modèle, on va écouter la question suivante dans un instant. Juste pour rebondir sur ce que vous dites, vous dites que les liens étaient rompus, mais des liens rompus, ça se recoud. En fait, pourquoi était-il impossible de recoudre à ce moment-là? Pourquoi on ne pouvait pas s'asseoir autour d'une table et se dire, voilà?
Donc, je n'ai pas dit que le lien était rompu, j'ai dit qu'il était altéré, abîmé.
Mais vous voyez, c'est mieux encore, on recoud vachement plus vite.
Mais vous savez, on tire à balles réelles. Nos affaires sont sérieuses. Nos hommes et nos femmes en opération sont confrontés à un ennemi farouche, difficile, agressif. Mmh. Et donc, il faut que la confiance entre le chef d'état-major des armées et le chef des armées, président de la République, soit totale. C'est extrêmement important. Et c'est pour ça que, en mon âme et conscience, je suis parti. On peut me reconnaître ce courage pour que mon successeur puisse, lui, de nouveau, exercer sa mission en toute confiance.
Et Thierry a aussi son opinion et sa vision de votre départ. Bonsoir Thierry, soyez le bienvenu sur France Inter, on vous écoute.
Bonsoir à tous. Commentaire pour Monsieur Devilliers. Vous avez raison sur le fond, mais vous avez tort sur la forme. Car un militaire, quel que soit son rang, n'affronte pas le président de la République, élu de la nation et chef des armées.
Alors c'est une appréciation, effectivement.
On vous a entendu, Thierry.
Je vous ai bien entendu, Thierry, et je vous salue. C'est une appréciation respectable que vous faites. Ce n'est pas la mienne. Je trouve que la vraie loyauté, quand on est en désaccord, et c'est d'en tirer les conclusions de façon à ce qu'il y ait une parfaite synergie, un accord parfait entre le chef et son subordonné. Effectivement, je suis trop soucieux de la vraie loyauté pour poursuivre ma mission dans ces circonstances. Votre appréciation est respectable, mais ce n'était pas la mienne.
Vous dites dans votre livre « La loyauté perd de la légitimité lorsque commence le légalisme ». Ça commence où, le légalisme, cependant ? Elle est où, cette frontière, quand on est militaire ?
J'ai toujours exigé que mes subordonnés me disent la vérité. Ensuite, je décidais, puisque le système hiérarchique...
Et s'ils n'étaient pas d'accord, à ce moment-là, vos subordonnés restaient quand même, partaient pas.
Alors, les subordonnés restaient quand même, sauf que j'essayais quand même d'écouter et d'entendre pour essayer de trouver la meilleure solution. Le système hiérarchique, avec sa rigidité, sa rigueur, impose ce dialogue en quelque sorte transversal, et j'ai toujours essayé de promouvoir l'obéissance d'adhésion, là où l'adhésion l'emporte sur la contrainte. Ça a été ma philosophie pendant toutes ces années, avec comme principe central l'humanité, c'est-à-dire on se tourne plus vers ses subordonnés que vers ses chefs, parce que ses subordonnés, eux, sont dans l'action, et c'est à eux qu'il faut faire confiance. Alors après, c'est une appréciation. Moi, je crois que la vraie loyauté, c'est de dire la vérité et d'en tirer les conséquences quand on n'est pas d'accord.
Général de Villiers, est-ce qu'il y a une blessure d'orgueil aussi, quand même, dans votre décision ? La critique, elle était publique. L'engueulade, parce que c'était vraiment ça, était publique. Est-ce qu'il y a aussi de l'orgueil au moment où vous rangez votre casoar, vous vous dites « je me suis fait humilier ».
Non, on me pose souvent cette question. Je n'ai pas vécu la soirée du 13 juillet à Brienne, avec le discours du président de la République, comme une humiliation. Je l'ai vécu comme une grande surprise, car j'avais passé la journée du 13 juillet à ses côtés, et il ne me semblait pas...
Vous aviez déjà parlé des 850 millions, du coup, à ce moment-là, vraiment.
Oui, mais pas du tout dans les termes aussi forts que le président de la République a utilisé le 13 juillet au soir. Et il est vrai que nous ne sommes pas habitués dans l'armée à une critique publique de la sorte. Et alors, je ne suis pas parfait, l'orgueil est général chez l'homme. Mais je pense que c'est plutôt une surprise et finalement une conclusion que j'en ai tirée, que le désaccord de fond sur l'arbitrage, doublé du désaccord de forme du 13 juillet, m'amenait à démissionner.
Je vous pose la question, on entendra un auditeur dans un instant, parce que quand on regarde, et on parlera d'ailleurs des moyens de l'armée dans un instant, 850 millions, c'est une somme, hein, mais par rapport aux 34 milliards de l'armée, ça tourne autour des 2%. Et finalement, on se dit, voilà, il a démissionné pour 2%, le général de Villiers.
Oui, enfin, ça se lit différemment en fonction de l'endroit où on se place. 850 millions d'euros, vu du soldat, marin et aviateur sur le terrain, avec des bâtiments en panne, avec un chauffage à 2 degrés à Belfort, avec la clé qui colle à la peau, ça se lit différemment, si vous voulez. C'est ça. Et moi, mon souci, c'est de défendre les hommes et les femmes que je commandais pour leur donner les moyens pour gagner.
Mais pour qu'on ait une idée, cette somme, ça représente quoi ? C'est-à-dire, pardon de vous le dire comme ça, un avion, c'est combien ? Un blindé, par exemple, vous parlez dans votre livre des blindés qui sont beaucoup trop vieux. Un blindé, ça coûte combien ? Donc avec ça, on achète combien de blindés ?
Ah ben avec ça, vous pouvez faire énormément d'opérations d'infrastructure. Vous pouvez améliorer tout le soutien au quotidien qui quand même perturbe. Vous pouvez avancer un certain nombre de programmes, à la fois blindés, maritimes, aériens, plutôt que de les retarder, alors que nous sommes avec des avions ravitailleurs de 50 ans d'âge, des avions de transport de 40 ans et des blindés en moyenne de 30 ans.
Ah oui, vous faites un tableau terrible. Vous parlez de gilets pare-balles qui datent de 99, à l'époque où vous étiez vous-même au Kosovo.
Oui, on a encore ces gilets pare-balles en dotation. Les nouveaux arrivent progressivement, je souhaiterais qu'ils arrivent plus vite.
Allez, je voudrais qu'on écoute Étienne qui nous appelle au 01 45 24 7000. Étienne, soyez le bienvenu sur France Inter, on vous écoute, le général de Villiers vous écoute.
Bonsoir. Alors, je tiens à dire d'abord que j'ai 25 ans, donc je n'ai pas fait le service national obligatoire. Et je voulais savoir si la professionnalisation des armées et la suspension du service national ont réellement permis de réduire le budget de la défense, comme on l'entend souvent.
Étienne, j'ai une curiosité, vous regrettez de ne pas avoir fait l'armée?
Parce que j'ai suivi une voie plus civile et que je pense que ça ne m'aurait pas tellement convenu.
Eh ben, écoutez, très bien. C'était vraiment par curiosité votre réponse, Monsieur de Villiers. Alors, est-ce que la professionnalisation a changé beaucoup de choses dans ces budgets?
Alors, c'est un débat que nous avons eu dans les années 90, puisque, comme vous le savez, le service national a été suspendu en 96. En réalité, nous n'avons pas fait d'économie avec la professionnalisation, parce que, entre-temps, le contexte a changé. Nous avons eu une succession de guerres à mener. Il y a eu la Yougoslavie, puis ensuite le Kosovo. Et finalement, les conflits se sont enchaînés. Donc, on ne peut pas comparer entre l'avant 96 et l'après 96. Ce qui est clair, c'est que on ne mène pas une guerre sans effort de guerre, qu'aujourd'hui nous menons des opérations de guerre tous les jours, à l'extérieur et à l'intérieur du territoire, et que la double conflictualité de l'islam radical et du retour des États-puissances que l'on mesure au Levant, au nord de l'Afrique et en mer de Chine, par exemple, pour ne prendre que trois exemples, ces deux types de menaces nous conduisent obligatoirement dans des actions de guerre. Et tout ceci, malheureusement, nécessite un effort de guerre.
Un effort, vous voulez dire financier, en fait.
Oui.
L'effort ne peut être que financier. L'effort humain,
oui.
Par exemple, quand on parle du service militaire, est-ce qu'il manque aux militaires, ce service, sincèrement? Est-ce que vous avez l'impression qu'il servait à quelque chose? Est-ce que vous suscitiez des vocations, même, avec ce service?
Alors, nous sommes dans une armée de métier. Notre métier, à nous, c'est de protéger la France et les Français. Et croyez-moi, aujourd'hui, avec 30 000 soldats en posture opérationnelle, c'est un vrai métier utile et que les Français apprécient, je crois.
30 000, et pour que les gens aient une idée, sur combien? 200 000 à peu
200 000
près,
militaires, 30 000 au quotidien. Mmh. Ça veut dire qu'il y a un turnover. Par exemple, en 2016, des dizaines de milliers de soldats marins et aviateurs ont passé plus de 200 jours à l'extérieur de chez eux.
C'est
la
beaucoup.
Question du service national, et le président de la République l'a annoncé lorsqu'il a été élu, le service national universel. C'est une autre question. Il s'agit de donner un sentiment d'appartenance à la communauté d'hommes et de femmes, à la nation, au travers de ce service. C'est un service national universel qui n'est pas un service militaire dans lequel, évidemment, nous, les militaires, nous pouvons apporter notre expertise. Mais nous faisons déjà beaucoup de choses. Nous incorporons 25 000 jeunes. Mais nous ne pouvons pas nous occuper de l'ensemble des ministères en charge de la jeunesse.
Bien sûr. Mais est-ce que l'armée fait rêver? C'était aussi le sens de ma question.
Alors,
est-ce qu'on a envie de s'engager dans l'armée quand on est un jeune aujourd'hui?
Alors, c'est ce que j'explique dans mes deux derniers chapitres de mon livre « Servir ». C'est exceptionnel, c'est un signe d'espérance pour la France. Dans les jeunes que nous voyons arriver, il y a un changement d'état d'esprit. Ils ne viennent pas simplement pour trouver un métier et pour avoir de quoi vivre. Ils viennent chercher du sens à leur vie. Ils viennent chercher des valeurs. Ils viennent chercher la fraternité, la camaraderie, le courage, la détermination. Tout ceci, ils le trouvent chez nous et ils en sont plutôt contents. Et nous avons un enthousiasme de la jeunesse aujourd'hui jusqu'à y laisser sa peau pour la France. Ça, c'est quand même un signe d'espérance. Et j'ai essayé d'expliquer modestement, au travers de mon expérience, ce qu'est le soldat français aujourd'hui. Ce qu'il fait, bien sûr, mais ce qu'il est surtout.
Général de Villiers, cette question qui nous vient d'Erwan sur franceinter.fr et qui dit « Nos interventions dans des pays n'est-elle pas disproportionnée par rapport à nos capacités opérationnelles ?» En quoi est-ce qu'on a les moyens de nos opérations extérieures?
C'est la question, c'est la cohérence entre les besoins et les ressources, ou entre les ambitions, les menaces, les missions et les moyens. C'est ça la question centrale que j'ai posée à l'occasion de cet événement et je crois que c'est celle qui doit nous occuper. Aujourd'hui, nous sommes à 30% au-dessus de nos moyens. Depuis, en gros, le 7 janvier 2015, les premiers attentats. Nous ne pourrons pas continuer comme ça. Il faut donc régénérer le plus vite possible nos forces et ensuite les moderniser. La difficulté dans laquelle nous nous trouvons, avec caractère, le volontarisme de nos troupes, qui, par la débrouillardise, par tout un tas de méthodes, arrive à faire face aux difficultés. En réalité, ça ne peut plus durer. Maintenant, il faut régénérer notre modèle d'armée.
Et quand vous dites que ça ne peut plus durer, disons les choses franchement, est-ce qu'on met les soldats en danger aujourd'hui avec le matériel qui est le nôtre, avec le nombre d'hommes qui est le nôtre, dans les pays dans lesquels nous sommes engagés? Est-ce que ce manque de moyens met des gens en danger?
La question, effectivement, c'est de gagner. La question, c'est de gagner en donnant tous les moyens à nos soldats pour gagner. Et moi, j'estime que compte tenu de la situation actuelle, notamment avec le terrorisme islamiste radical, qui frappe dans le monde entier et qui est extrêmement menaçant, puisque c'est une idéologie où finalement la barbarie est érigée, non pas en moyens, mais en fin, avec une violence inouïe, comme on n'a jamais connu dans nos derniers engagements. Moi, j'estime qu'on doit leur donner tous les moyens, en particulier en termes de protection.
Est-ce que ça veut dire aussi que ces nouvelles formes de guerre que vous décrivez notamment, donc aujourd'hui les guerres asymétriques, des choses qui sont beaucoup plus compliquées qu'avant, ou autrefois finalement, facilement, et j'y mets beaucoup de guillemets, un pays contre un autre, chacun respectant les règles internationales, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, est-ce que nos forces sont adaptées à ce genre de guerre-là, désormais, à ces changements-là?
Nous sommes dans une situation où l'ambiguïté, effectivement, se joint à la complexité. La guerre, c'est toujours complexe, le brouillard de la guerre. Mais là, il y a l'ambiguïté entre les combattants, les non-combattants, entre l'intérieur, l'extérieur. Tout ceci n'est pas facile. Nous nous sommes adaptés et nous avons une armée exceptionnelle. Vous savez, nous sommes admirés, respectés par nos alliés et craints par nos adversaires. Ce n'est pas pour rien. Et moi, je dis à temps et à contre-temps, nous avons de belles armées. Simplement, il faut que, compte tenu de la situation que nous avons devant nous, ces armées soient régénérées au plus vite.
Franck nous appelle sur France Inter au 01 45 24 7000. Franck, soyez le bienvenu, vous écoute.
Oui, bonsoir. Je voulais d'abord saluer le général de Villiers, un homme extrêmement respectable, qui a eu beaucoup de courage dans cette affaire et qui méritait d'être traité autrement qu'il a été traité par le président.
Il vous a entendu.
Franchement, c'est très regrettable d'avoir traité le général ainsi. Voilà, alors ma question est la suivante. Certains hommes politiques préconisent, s'ils étaient élus, qu'ils quitteraient l'OTAN. Même si c'est souhaitable, je pense que cette promesse de certains hommes politiques me paraît tout à fait mensongère, dans la mesure où aujourd'hui le degré d'implication de nos forces armées air-terre-mer dans l'OTAN fait que ce serait extrêmement difficile de quitter l'OTAN avec toutes les conséquences financières, politiques et stratégiques que cela aurait. Alors même si c'est souhaitable, parce que le général de Gaulle, lui, voulait quitter l'OTAN, enfin il avait quitté le commandement de l'OTAN, mais il était quand même resté dans l'OTAN.
Et autre contexte, on y viendra. Allez-y, Franck.
Mais aujourd'hui, je crois que l'OTAN nous entraîne vers une politique plus ou moins agressive vis-à-vis de la Russie, qui n'est pas du tout souhaitable pour l'avenir du continent européen. Je voulais poser la question au général. Est-ce que vous pensez qu'il est souhaitable aujourd'hui de quitter l'OTAN? Parce que, en fait, l'homme politique peut dire qu'il souhaite quitter l'OTAN, mais est-ce que les militaires le souhaitent? Est-ce que les hauts dirigeants des armées air-terre-mer souhaiteraient aujourd'hui quitter l'OTAN?
Oui.
De façon à couper court à des éventuelles promesses d'hommes politiques qui affirment que s'ils étaient élus, ils quitteraient l'OTAN. Mais est-ce que les militaires le veulent?
Eh bien, votre question a été entendue, général de Villiers. Est-ce que les militaires veulent quitter l'OTAN? Est-ce que l'OTAN est toujours aussi fort qu'il l'était?
Alors d'abord, moi je suis militaire, je suis un soldat, et je ne suis pas un homme politique et je ne ferai pas de politique.
Ou pas encore? Ah non, bon d'accord.
Non, je ne ferai pas de politique.
Bah comme ça,
non.
C'est dit.
Non, c'est dit et c'est clairement dit.
Allez-y.
Voilà, et donc je reste un soldat. Donc c'est une décision politique que vous posez. Aujourd'hui, l'appréciation du soldat que je pose, c'est que l'OTAN nous garantit un niveau d'interopérabilité inégalé pour l'armée française, en particulier avec nos différents alliés. Quand nous sommes dans une coalition, par exemple, comme au Levant, pour combattre Daesh en Irak et ensuite en Syrie, je dois dire que ce niveau d'interopérabilité est exceptionnel dans les trois dimensions terre-air-mer. Et je pourrais y ajouter d'ailleurs le cyber. Donc je crois qu'il faut bien réfléchir à tout cela. Ensuite, effectivement, il ne faut pas que le remède soit pire que le mal et que les mesures de réassurance que nous prenons dans le cadre de l'OTAN à l'est de l'Europe ne soient considérées comme de la provocation. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un bon équilibre. Mais il est clair que... notre retour dans l'OTAN nous a permis, en quelque sorte, une meilleure interopérabilité. Après, je voudrais dire que ces alliances, on pourrait aussi parler de l'Union européenne ou des coalitions.
Ben, j'allais y venir.
Ces alliances ne changent pas le concept d'indépendance nationale, avec notre dissuasion nucléaire, et d'autonomie stratégique, et c'est très important, et c'est aussi pour ça que je me suis battu. Notre capacité d'entrer en premier, comme nous l'avons prouvé avec l'opération Serval, à quelques heures près, cette capacité est fondamentale. Notre capacité de commandement, qui est certainement cette chaîne de commandement, est une des meilleures du monde. Donc, il ne faut pas opposer l'OTAN, l'Union européenne, à l'indépendance nationale. Je crois que tout ceci est parfaitement complémentaire. Ce n'est pas une réponse de compromis que je vous fais, c'est une réponse de praticien. Je crois qu'il faut essayer de sortir des idéologies des uns et des autres et être réaliste. Voilà comment je vois les choses.
Général de Villiers, pour poursuivre ce que vous dites, vous l'avez un peu évoqué, cette question de Christian sur franceinter.fr, ne pensez-vous pas que devant la puissance des États-Unis, de la Chine, de la Russie, il faut créer une armée européenne en supprimant les armées nationales ? Alors supprimer, je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce qu'on s'achemine vers cette armée européenne ? Est-ce que c'est une bonne chose ?
Alors, la France est un grand pays. Je consacre un chapitre à la grandeur de la France, avec l'angle, évidemment, militaire. Nous sommes la deuxième armée occidentale aujourd'hui engagée en opération et la première en Europe. Il faut le dire parce que je trouve que la France a tendance à perdre ce sentiment de fierté. On a tendance à voir toujours ce qui ne va pas, mais quand on est à l'extérieur, on nous admire. Et la voix de la France porte. Après, il ne faut pas opposer les coopérations internationales, notamment européennes, à l'indépendance nationale et à la souveraineté. Moi, je pense que le terrorisme islamiste radical sera vaincu avec une approche nécessairement transnationale et transfrontalière, d'autant qu'il se cache souvent le long des frontières, on voit ça en particulier en Afrique et au Levant. Donc cette coopération est indispensable, mais elle ne doit pas s'opposer avec la capacité autonome de décision de notre pays, la France. Quant à l'armée européenne, la meilleure façon de progresser dans le domaine de la défense européenne, et je suis profondément européen, c'est de passer par la défense de l'Europe, c'est-à-dire des coopérations interétatiques, à géométrie variable, sur des projets concrets. C'est d'ailleurs ce que nous faisons, nous, les militaires, parce que cette Europe, nous vivons avec. J'étais en Afghanistan, je commandais 2500 soldats de 15 pays différents, et ça fonctionnait.
Mais vous parliez de manque d'argent tout à l'heure et manque de moyens. Si une défense européenne était mieux faite, est-ce que vous ne croyez pas que ça nous coûterait finalement moins cher, puisque ce serait chacun qui pourrait mettre un peu d'obol, non ? Est-ce que ce
Bien
serait
sûr.
Pas une meilleure chose ?
Bien sûr, ça s'appelle le partage du fardeau, c'est le chapitre 7 de mon livre. J'explique tout ce qu'on peut faire. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire et qu'on ne pourra pas faire. On ne meurt pas pour quelque chose d'abstrait. On ne meurt pas pour une communauté économique. On ne meurt pas pour...
Ça veut dire qu'on aurait moins le sens de la mission. Je vous entends, vous nous dites qu'on aurait moins le sens de la mission, qu'un militaire français aurait moins le sens de la mission si ce n'est pas l'armée française,
voilà,
avec des majuscules qui est sur le terrain.
Vous voulez, quand on est dans le coup de feu, quand on nous tire dessus, quand il s'agit d'être plus fort que l'adversaire, comme ça se passe par exemple au Mali, dans des engagements parfois à très courte distance, on pense à son chef, on pense à son drapeau, on pense à sa patrie, on pense à son pays, on pense à ceux qui compose son pays, et on ne pense pas à quelque chose d'autre. Alors l'idée de l'Europe reste à construire, et tant qu'elle n'est pas construite, on ne pourra pas construire cette armée européenne. J'ajoute que fusionner des troupes, ça me paraît difficile. En revanche, juxtaposer, en conservant sa spécificité, ce qu'est une nation, ce qu'est une culture, ça me paraît souhaitable, et ces coopérations sont indispensables à développer.
Allez, tiens, je voudrais qu'on fasse un petit pas de côté grâce à Alain. Bonsoir Alain, et on vous écoute.
Oui, bonsoir, je vous remercie de prendre ma question. Donc c'est plutôt une question historique. Actuellement, il y a des recours qui sont faits pour demander la réhabilitation de soldats, de pères de famille, quelquefois, qui ont été fusillés par l'exemple pendant la guerre de 14-18. J'aurais bien aimé avoir le point de vue du général de Villiers à ce propos. Merci. Ouais,
la réhabilitation des soldats de 14-18, monsieur de Villiers.
Alors, je vous avoue que mon livre est vers l'avant, et j'essaie de réfléchir vers l'avant, et pas vers les commémorations. La commémoration du centenaire de la guerre 14-18 est quelque chose de très important. C'est vrai que nos soldats, nos jeunes soldats ont besoin de s'ancrer dans le passé et notamment dans la Grande Guerre. C'est l'occasion. Moi, je suis pour rassembler les Français. J'ai deux messages dans ce livre. C'est l'espérance, notamment dans la jeunesse, et l'unité nationale, parce que je trouve que la situation est suffisamment grave pour ne pas se disperser. Donc, tout ce qui a tendance à diviser me semble être à essayer de gommer. Voilà comment je vois tout ce genre de thème.
Général de Villiers, cette question, j'essaie de trouver le prénom, je le trouve pas. Si, c'est Christophe qui nous envoie un message depuis l'Hérault. J'ai été effaré d'entendre une femme de soldat, dit-il, s'adresser au Premier ministre récemment au cours d'un programme télévisé en faisant état des conditions d'hébergement des soldats participant aux missions de surveillance antiterroriste, notamment sur le territoire, et aussi du fait que les salaires n'étaient pas versés. Que pouvez-vous nous dire, Général, à ce sujet? Et quelle raison à cela? Et peut-être que l'état moral des soldats est lié au fait qu'ils sont maltraités.
Alors, je vous remercie de cette question.
Est-ce que les soldats sont maltraités ?
Vraiment, je vous remercie de cette question parce que ça me permet de dire quelques mots des familles. Mm-hmm. Alors, vous savez qu'un soldat, quand il est projeté à des milliers de kilomètres et qui peut aller jusqu'à laisser sa vie, il pense à l'arrière. Et quand l'arrière ne tient pas, c'est une vieille constante dans notre histoire pour le coup, il y a une très grande fragilité. Le moral, les forces morales au combat, c'est fondamental. Et je trouve que sur ce plan, je salue le plan famille qui a été annoncé récemment par Madame Parly. J'appelais ce plan depuis de nombreux mois. Il est temps. Il est temps car nos familles ont beaucoup souffert ces dernières années.
Est-ce que vous diriez maltraité, sincèrement ?
Le terme maltraité me paraît impropre. Je dis que nos familles ont beaucoup supporté de contraintes et que ces contraintes méritent d'être compensées le plus vite possible. Quelles sont ces contraintes ? Imprévisibilité de l'emploi du temps. Car avec tous les attentats que nous avons vécus, parfois à très court préavis, 24-48 heures, le mari, le père s'en va. La mère disparaît. Vous vous rendez compte des conséquences, notamment pour les enfants. Ensuite, beaucoup de déménagements. Nous avons depuis 2008 dissous, restructuré énormément d'unités, beaucoup de déménagements. Déménagement, ça veut dire les études des enfants, ça veut dire le logement, ça veut dire pour certains le CIBA géographique. Les conditions de logement très difficiles, notamment en région parisienne pour les jeunes, les jeunes officiers, jeunes sous-officiers. Tout ceci mérite d'être amélioré. Je salue ce plan famille parce que ça va dans la bonne direction. Alors en plus, j'aurais pu parler, vous l'avez évoqué, du système Louvois avec les soldes très erratiques. Le problème est contenu mais n'est pas réglé et va commencer à être réglé avec l'apparition du nouveau système à l'été 2018. Ça fait beaucoup pour les familles et je salue à cette antenne les familles de militaires parce que j'y ai vécu moi-même toutes ces contraintes et je les trouve admirables.
Jean-Paul, sur franceinter.fr également, on a un peu évoqué les questions, il souhaite y revenir. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de remettre le service militaire obligatoire pour intégrer la jeunesse comme la Suède l'a fait récemment? Est-ce que ce serait toujours un moyen d'intégrer la jeunesse que de les confronter à l'armée?
Alors nous avons évoqué ce sujet tout à l'heure. C'est une décision essentiellement politique. Ça pose trois sujets, trois difficultés. La première, c'est le budget. Alors... Je ne veux pas épiloguer, mais enfin, quand vous voyez ce qui s'est passé, ça sera compliqué.
Si, vous pouvez épiloguer, c'est ce qui a valu votre démission, si je m'en souviens
bien. Le deuxième sujet, c'est l'infrastructure. Aujourd'hui, nous n'avons plus de casernes, donc il faudrait les retrouver. Le troisième sujet, c'est l'encadrement. Quel encadrement ? Une classe d'âge chez à peu près 800 000 jeunes.
Et ça fait beaucoup.
Donc, moi, je comprends bien la nécessité de donner à la jeunesse ce sentiment d'appartenance à la nation, à la communauté d'hommes et de femmes. J'en partage cette nécessité, puisque nous le faisons à notre mesure. Nous avons beaucoup de dispositifs. Et l'ascension sociale participe de cet état d'esprit. Aujourd'hui, vous pouvez démarrer deuxième classe et terminer général. Tous les ans, je nommais des généraux issus de ce qu'on appelle du rang, c'est-à-dire qui ont commencé deuxième classe. C'est exceptionnel. Nous sommes une des dernières institutions à faire cela. C'est fondamental.
Eh bien justement, tiens, je voudrais qu'on écoute Victor, qui est un jeune auditeur, Victor collégien. Bonsoir Victor, et on t'écoute.
Bonsoir. Alors, moi, ça serait pour parler en fait de moi. Je suis au collège, j'ai 14 ans, et en fait j'ai des amis qui de plus en plus en fait veulent s'engager, non pas pour protéger leur pays ou défendre la liberté, mais en fait qui veulent s'engager car ils jouent de plus en plus à des jeux vidéo très violents. Et ils sont là, mais non, mais de toute façon à la guerre maintenant, on ne meurt plus, c'est plus comme avant, et qui en plus sont là à pas vouloir s'engager pour leur pays. Mais dans d'autres pays, parce que les commandos ont meilleure réputation ou des choses du genre.
Merci beaucoup. Excellente question, Victor. Et je vous voyais faire oui avec la tête, Général de Villiers. Ou je suis sûr que vous en croisez
oui.
Comme ça, en fait, qui ont une espèce d'idée,
oui.
J'allais dire une idée romantique de la guerre. Enfin, alors que la guerre, c'est ça, les
émissions. Oui, nous sommes dans un monde qui a tendance à cultiver le virtuel. Nous sommes dans le numérique, dans le virtuel, et nous sommes de moins en moins dans le réel. Et malheureusement, c'est pour ça que nous sommes des artisans de paix. Tous les militaires vous le diront, parce que nous savons ce qu'est la guerre. La guerre, c'est à balles réelles. La guerre fait des morts et des blessés. Et il faut tout faire pour éviter la guerre, évidemment. Mais malheureusement, la violence ne recule que devant la force. Alors, nous en voyons arriver certains jeunes comme ceci, et il faut les remettre très vite dans la réalité de la vie. Et je crois que la vie n'est pas un théâtre d'ombre ou une comédie humaine. La vie, c'est du courage, c'est de l'effort, c'est du travail. Alors, ce que je voudrais répondre à jeune
Victor,
garçon, c'est que finalement, à partir de jeunes, parfois, qui sont en difficulté, qui sont assez seuls, ou qui sont comme ça dans le virtuel, nous arrivons à en faire des vrais soldats, des héros qui, au bout de quelques mois, vont chercher leurs camarades sous le feu. Tout ça pour l'honneur de la France. Donc je trouve ça très beau. Bien sûr, tout n'est pas parfait, tout n'est pas réussi. Mais quand même, arriver avec la jeunesse d'aujourd'hui, toutes ces caractéristiques, à faire ce que nous faisons, je trouve que c'est magnifique. C'est un signe d'espérance pour la France.
Cette question sur franceinter.fr qui nous vient de Julie, qui revient sur l'opération Sentinelle. Les soldats, dit-elle, souvent se plaignent de ne pas servir à autre chose que de forces visibles, donc rassurantes. Est-ce qu'ils servent à autre chose ou, dans la sous-question de Julie, est-ce que c'est pas ça, Sentinelle? Oui, c'est être visible et rassurant, en fait.
Alors, vous pourrez demander à ceux qui sont qui ont été neutralisés par Sentinelle, notamment au Carrousel du Louvre, à Orly et ailleurs. Heureusement qu'ils étaient là. Heureusement qu'ils étaient là. Moi, je suis allé sur place après chaque neutralisation. Je peux vous dire que ça aurait pu être un massacre à chaque fois. Donc, évidemment, Sentinelle est utile dans ce rôle de réaction. Et la mobilité avec laquelle Sentinelle, maintenant, est conduite, impose la surprise à l'adversaire. Et non pas l'inverse.
C'est ce que vous dites quand vous dites qu'il faut sortir d'une logique d'effectif déployé pour privilégier une logique d'effet.
Exactement,
en fait.
Exactement. Alors après, Sentinelle a aussi une vocation de dissuasion et de prévention. Vous savez, les terroristes nous connaissent. Ils savent de quoi nous sommes capables, les militaires français. Vous savez qu'il y a des réseaux entre eux, ils se connaissent. Et ils savent qu'ils ont intérêt à faire attention. Donc il y a aussi ce rôle. Je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup d'attentats d'éviter en France, sur le sol national, grâce à notre système et entre autres Sentinelle. Je voudrais dire que la protection de la France et des Français passe aussi par la protection des côtes, par la protection aérienne. Nous avons des avions en alerte 7 minutes, par la protection par nos satellites, par la protection par le cyber. C'est global. Et c'est pour ça que ça coûte cher, un modèle global. Mais parfois, quand on regarde, là encore, parliez d'histoire tout à l'heure, quand on regarde les grandes défaites militaires, c'est parfois le grain de sable qui conduit à la défaite.
Allez, Guillaume est un jeune Saint-Cyrien, ancien officier dans les blindés, comme vous, général de Villiers, dit-il. Et il dit « J'ai acquis aujourd'hui la certitude que les ressources ne manquent pas au ministère, elles sont seulement mal gérées, elles ne sont pas employées là où elles le devraient. Il faut réinterroger la finalité de nombreux services du ministère, etc. etc. » Est-ce qu'il y a mauvais emploi de cet argent ?
Oui, alors, ce que je voudrais dire, c'est que nous conduisions une transformation extrêmement profonde depuis 2008. Nous avons supprimé 40 000 personnes entre 2008 et 2014. Nous avons supprimé 50 régiments de l'armée de terre, 17 bases aériennes, 20 bâtiments des armées sur la même période.
Deux bases aéronavales, dites-vous aussi.
Nous sommes en pleine réorganisation, en pleine transformation. Donc, sur le plan de la réorganisation, nous n'avons pas de leçons à recevoir, en tout cas dans la fonction publique. Bien sûr, tout est perfectible. Mmh. Bien sûr, je ne prétendrai pas à ce micro que tout est parfait. Mais quand même, nous avons fait beaucoup d'efforts et nous essayons chaque euro de le dépenser le plus efficacement possible, en particulier par la motivation des personnels. Les réformes sont multiples. Il n'y a pas un seul endroit du ministère de la Défense, enfin des armées et des armées aujourd'hui, qui soit épargné. Donc,
on a déjà tout donné, dites-vous, c'est page 104 de votre livre.
Oui, parce que simultanément à ces réformes, où je viens de vous expliquer quelques chiffres, quelques exemples, simultanément, nous sommes 30 000 en opération et 30% au-dessus de nos capacités. Il y a un moment où on ne peut pas trop demander au personnel, on ne peut pas tout demander, et c'est précisément ce moment où nous sommes aujourd'hui. Servir, c'est un mot extraordinaire. Mais servir nécessite quand même un minimum de moyens.
Et c'est le titre de votre livre, Général de Villiers, c'est publié chez Fayard. Merci beaucoup de votre présence dans le téléphone sonne et merci à tous ceux qui ont participé. Bonne soirée.
Merci à vous.